Donc, messieurs, aujourd'hui, on va parler un peu d'une chose qui s'appelle le Heter Mechira. Certains rabbins, même les grands rabbins, il y a 5 siècles, ont autorisé une chose qui s'appelle le Heter Mechira. C'est-à-dire, il y avait un problème. La communauté juive à l'époque en Israël était très petite, très pauvre. Elle vivait de la production agricole à 98%. Et si tu interdisait aux juifs de travailler la terre, alors, tout simplement, le Yishuv, l'establishment juif ici en Israël, aurait disparu. Alors, les rabbanim ont autorisé de faire ce qu'ils appellent quoi ? Ils ont trouvé une sorte de combine. Qu'ils vendent la terre aux non-juifs. Moshe, il a un terrain, il la vend à son voisin, Gustave ou Ahmed, plutôt Ahmed que Gustave ici en Israël à l'époque, encore aujourd'hui. Et vu qu'une terre qui appartient à des goïms, la production n'est pas sainte, comme ça il pensait en tout cas, alors il n'y a pas de problème de... Il y aura de quoi manger. Aujourd'hui, la rabbanoute et certains rabbins autorisent cette combine-là de vendre la terre d'Israël aux Arabes, en l'occurrence, c'est à eux qu'on vend, pour pouvoir, en quelque sorte, contourner les lois de Shemitah de la Shvite. Tous les rabbins orthodoxes sont complètement opposés à cela. Pas pour des raisons idéologiques, mais pour des raisons tout simplement de l'Halakha. Au niveau de l'Halakha, il est presque impossible que ce Heter Mechira ait une valeur. D'abord, je vais te donner quelques arguments, on va en parler. Et, bon, évidemment, il y a toujours des arguments qui sont pour et qui sont contre, mais en gros, en tout cas, c'est clair, tous les rabbins orthodoxes, les grands rabbins orthodoxes, sont contre cela. Ils disent que ça n'a pas de valeur. En cas, le rabbin Yosef, il dit qu'aujourd'hui, que facilement on peut faire les lois de Shvit, alors aucune raison de devoir ressortir cette combine de tiroirs comme ça et l'utiliser pour contourner la Shvite. On peut faire la Shvite normalement. C'est vraiment dans les cas où il n'y a pas de solution, qu'on va crever de faim, alors il y a une combine, Heter Mechira, on vend la terre aux non-juifs. Premier problème, c'est est-ce que quelqu'un qui fait une vente, dans l'intention que la vente n'ait pas lieu, est-ce qu'elle a lieu ? Les rabbins disent non. Quelqu'un, tu vas maintenant, tu vas à un kibbutz, voilà. Tu vas écouter, la prochaine année, c'est Shvit. Quoi Shvit ? Septième. Quoi septième année ? Non, ça fait 58 ans qu'on habite dans ce kibbutz. Non, c'est la septième année du compte. Ah oui, truc religieux comme ça, ok. Si vous voulez que votre production, les rabbins viennent, vos productions puissent la vendre, tous les religieux, il faut que vous vendiez votre terre. Je ne vais pas vendre ma terre. Non, regardez, vous signez sur le petit papier là, comme quoi vous vendez. C'est comme le Hametz à Pessah, tout ça. Ça reste pour vous, il n'y a pas de problème. Bon, il faut ce que je dis. Ok, il signe. Terminé. Il a vendu son kibbutz. Il a 1000 hectares. Il a vendu à Ahmed. Jamais de la vie. Donc, bien que le type, il a écrit, vu que nous savons que c'est qu'un jeu, c'est une combine, ça n'a pas de valeur. Alors les gens répondent, oui, non, mais on voit bien que à Pessah, pour le Hametz, les gens font la même chose. Tout le monde là, il a son whisky dans l'armoire, l'autre il a son usine de bière, d'accord, et il prend la main, il soule le foulard, voilà, c'est bon. Ah, j'ai pas de Hametz chez moi à la maison. Il est bourré de Hametz partout, mais il fait son Pessah, soit des encens, sans Hametz. Et on voit que ça marche, les grands rabbins autorisés. Si on peut s'arranger sans ça, c'est mieux. Mais, c'est valable. Il y a une nuance qui est très très grosse. Quoi ? Comment on fait la vente ? On va voir un arabe. On dit, écoute, voilà, c'est tout le Hametz de tous les juifs d'Israël. Ça vaut 50 millions de dollars. On te le vend. Il dit, ok, je suis d'accord. Maintenant, tu nous payes 50 millions de dollars la semaine prochaine. C'est bon. On fait un acte de vente comme il faut. Lui, déjà, il paye une partie. Il paye 1000 dollars, on va dire. Vers la semaine prochaine, après Pessah, il dit, écoutez, pour moi, c'est très dur de payer. C'est vrai que j'ai déjà acquis, il a déjà donné une partie, donc ça lui appartient. Je vous revends tout le Hametz pour la même somme, 50 millions de dollars. Moins 1000 dollars que je vous ai donné. Ok, on est d'accord. Et on fait de nouveau la vente dans l'autre sens. pourrait comme ça que ça se passe. Maintenant, la question est, tous les gens là, on a tous les deux, chacun, il a son, il est un peu tramètre dans sa villa, l'autre dans de Hamès, dans de whisky dans son grenier, l'autre il a son usine de bière. Tous ces gens-là maintenant, est-ce qu'ils sont intéressés à vendre leur Hametz, oui ou non? Alors, eux, ils sont intéressés à vendre parce que il y a la fête de Pessah. Mais s'il n'y a pas Pessah maintenant, est-ce que la vente, elle est valable? Si maintenant, le type, on lui dit, écoute, 10 caisses de whisky, on te l'achète prix coûtant et plus. Le double du prix. On fait beaucoup, on fait payer à l'arabe 50 millions de dollars, peut-être ça vaut que 25 millions de dollars le Hametz. Franchement, c'est pas beaucoup. Hein. C'est un peu Hametz des fois qui est dans l'aisance de la casserole, d'accord. On lui fait, ça coûte pas très cher. On lui fait payer un très grand prix. Est-ce que tu es d'accord de vendre maintenant ta caisse de whisky, peut-être pas le double, on va dire, avec une majoration de 20%. Il dit, ouais, aucun problème. Le type qui a une usine de bière, t'es d'accord de vendre ta... je vends toute ma production, mais vous achetez-moi toute la bière que j'ai. Oui, je veux vendre. Mais tous les gens, ils veulent vendre. Tous les magasins, les épiceries, ils veulent vendre. On te l'achète. Donc lui, maintenant, la vente, elle est valable. Il est intéressé à vendre, parce qu'on est censé recevoir de l'argent en contrepartie. Prenons maintenant le directeur du kibboutz. Est-ce qu'il est d'accord de vendre son kibboutz? On t'achète tous les terrains, prix coûtant, plus, major, allez, 20% en plus. Écoutez-moi, je veux pas vendre, surtout pas Ahmed. Je ne vends pas mon kibboutz. Donc là, il y a une nuance. Quand on vend du Hametz, tous les gens qui vendent du Hametz sont intéressés. Si on leur donnait l'argent à la contrepartie, ils seraient d'accord de le vendre. Donc c'est une vente qui est valable. Mais quand quelqu'un il a un terrain, et c'est son gagne-pain, il est d'accord de vendre la production, mais pas de vendre le terrain. Le terrain, c'est mon gagne-pain, c'est ma maison, c'est tout. C'est, désolé, mon vieux. Je ne vends pas. Donc, il y en a qui ont dit, Dvarim Shebalev, Enem Dvarim. Les choses qui sont dans le cœur ne valent rien. Quelqu'un, il a vendu sa maison. Il est venu, on l'a saoulé, on l'a truc, hop, on fait signer, vend ta maison. Le lendemain matin, il se réveille, il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il va hurler, il prend des avocats, désolé mon Dieu, t'as signé, terminé. Mais moi, je voulais pas. Barim Shebalem, Enem Dvarim, les choses qui sont dans le cœur n'ont qu'une valeur. Quelqu'un qui a signé, il peut dire après, mais je ne voulais pas, mais t'as signé. Nous, on regarde les actes, on ne regarde pas le cœur. C'est un argument dans la Torah. Donc là, on pourrait dire, c'est la même chose. Ok, le type, c'est vrai qu'il ne veut pas vendre, mais il a signé. Il a signé, c'est son nom, le directeur de kibboutz, c'est le tampon, tout ça. Donc c'est quand même pas des blagues. Réponse, c'est des blagues. On a des cas dans la halakha, où si nous savons que la personne, c'est clair pour le monde entier, que la personne maintenant, elle ne veut pas faire la vente, elle n'est pas valable. Par exemple, la Gemara, elle dit, quelqu'un qui n'a pas d'enfant et qui dédie toute sa fortune à la communauté, aux gens. Il dit, voilà, je donne tout, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de famille, je n'ai rien du tout, je dédie, voilà, je suis multimillionnaire, je donne tout. Et donc, on apprend qu'il a un enfant. Avant qu'il soit mort ou après qu'il soit mort. On dit, on est certain que s'il avait su qu'il avait un enfant, il ne savait pas, s'il avait su qu'il avait un enfant, jamais il aurait dilapidé sa fortune à la communauté. Il aurait fait hériter à son fils. Là, on dit, bien que Dvarim Shebalem en Dvarim, les choses du cœur ne sont pas valables. Là, lorsqu'il y a une Umdena, ça veut dire un jugement des sages d'Israël qui comprennent que dans ce cas-là, c'est clair que c'est une erreur ce qu'il a signé, ça n'a pas de valeur. Dans le cas de la vente, ici, des terrains, même chose. Nous savons que le duc ne veut pas vendre. On lui dit, tu veux vendre? Il dit non, signe. Et il signe qu'il veut vendre. Ça ne marche pas ensemble, c'est de la blague. Autre cas, c'est Tuvataroche, je le dis comme ça. Quelqu'un qui a des dettes. Il doit de l'argent au monde entier. Il était au casino, il a perdu beaucoup d'argent. Et il a des biens. Il sait que demain, les gens vont venir et vont prendre ses biens. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir son frérot. Écoute, frérot, on fait un contrat maintenant. C'est entre nous comme ça, parce que sinon, je vais me retrouver sur la paille. Je te vends tous mes biens. On vient prendre ses biens. Il dit, regardez, j'ai vendu mon... Désolé, justement hier, c'est bête, hein. J'ai vendu toutes mes affaires à mon frère. L'Alaha dit, non. On sait très bien que tu as fait ça, pourquoi? Pour pas payer tous tes créanciers. C'est de la blague et c'est pas valable. Donc c'est pas dans tous les cas qu'on dit Dvarim Shebalem en Dvarim. Les choses du cœur n'ont pas de valeur. Là, lorsque nous voyons le cœur quelque part clair, qu'on sait que s'il avait des enfants, il aurait donné, on sait qu'il n'aurait jamais vendu ça à son frère, si ce n'est pour se sauver des créanciers, alors bien que les choses ont été écrites, ne sont pas valables. Dans le cas de la Shemitah, c'est la même chose. On ne peut pas nous faire gober que quelqu'un est en train de vendre son gagne-pain, son kibbutz à son voisin. J'arrive. Maintenant, la chose la plus grave qu'il y a là-dedans, il est marqué dans la Torah, lo techonem. C'est un lave de Horaïta, c'est une 613 lois de la Torah. Lo techonem. Interdiction, ça veut dire du mot chanaya. Lo techonem, tu ne leur donneras pas une chanaya, une station dans la terre. Interdiction de la Torah de vendre une terre, une partie de la terre d'Israël, à des non-juifs. Maintenant, si quelqu'un va et vend, moi j'ai un terrain, je veux travailler pendant la Shemitah, je suis religieux, ça m'embête. Qu'est-ce que je fais? Bon, allez. Techonem, techonem, je serai toujours à Yom Kippour, votre Hachem, Dieu pardonnera. Allez, je vais voir mon voisin, Ahmed. Écoute, tiens, je te vends mon terrain. On fait un contrat en bonne et due forme. J'ai fait un lave de horaïta, j'ai transgressé un interdit. Mais la vente, est-elle valable? Elle est valable. Si la vente n'est pas valable, je n'ai pas fait d'interdit. Parce qu'elle est valable, qu'est-ce que c'est interdit? C'est interdit de vendre, et que la vente, elle a lieu. C'est interdit. Mais qui aujourd'hui va vendre sa terre aux Arabes? C'est pas comme ça que ça se passe. T'as, comme pour le Hametz, t'as un rave qui va voir Rabbanout, va voir tous les kibboutzim, tous les agriculteurs, dit, écoute, voilà, signe ici, tu me fais maintenant chalir, tu me fais envoyer, je suis ton délégué, pour aller vendre ta terre à un arabe. Et le type, il signe. On a une loi dans la Torah qui dit « En shlichut d'edvar avera ». Il n'y a pas de délégation pour faire une avera. C'est-à-dire que le type n'est plus... La Torah, quelque part, elle ôte la délégation. Je te délègue, va s'il te plaît vendre ma terre à Ahmed. Eh bien, tu peux faire ce que tu veux. T'as plus, la Torah dit, tu n'as pas de statut de délégué. Tu ne peux pas la vendre. Donc la vente, elle n'a pas lieu. Donc maintenant, on nous fait manger des fruits, soi-disant, qui ont été cultivés sur des terres arabes. C'est pas vrai. Parce que c'est pas le propriétaire qui l'a vendu. Le propriétaire a fait un délégué. C'est le délégué qui l'a vendu. Oh, délégué, vu qu'il fait un lave de horaïta, il est chaliar, il est délégué pour une interdiction de la Torah, la vente n'a pas lieu. Donc cette terre, elle est juive. Et les gens qui la cultivent transgressent l'interdit de Shemitah.
Et même les rabbinim aussi sont en connivence avec eux et ils payent aussi.
Oui, alors je te dis, qu'est-ce qui se passe? Il faut comprendre. La rabbanout, elle essaye de limiter la casse. La majorité des agriculteurs israéliens ne sont pas religieux. Maintenant, pour limiter la casse, on leur fait faire ça parce que d'après certains avis de certains rabbins, il y a cinq siècles, alors ça, le terme Hira était valable. Mais nous, qu'on est bien dans le circuit, pourquoi aller se suspendre à une combine qu'il y a peu de chances qu'elle soit valable? Pour eux, c'est mieux que rien. Mais le danger est que les gens vont croire « Ah, les rabbanous, la rabbanou a fait ça, donc ça va ». Non, ça va pas. Ça va moins grave, mais c'est grave toujours. C'est moins grave, mais c'est grave toujours. Pourquoi? Comme je t'en ai expliqué, qu'il y a beaucoup de côtés de la halakha qui semblent montrer que c'est pas valable du point de vue de la halakha. Maintenant, regardez à quel point c'est absurde. La Shemitah aujourd'hui, elle est des Rabbanan. On va faire un issour de Horaïta, de la Torah, de l'Otechonem, pour nous sauver d'un issour des Rabbanan de cultiver une terre de Shemitah. C'est absurde. Il y en a qui ont voulu dire que l'interdiction de l'Otechonem, qui l'interdit de vendre la terre d'Israël à des non-juifs, n'est que pour des non-juifs qui sont idolâtres. On veut dire Avodah Zara. Effectivement, très souvent, dans tous les écrits juifs, on ne veut pas mettre Nochri ou Goy, on met Akum, Akum, Oved, Kochavi ou Mazalot, un serviteur d'étoiles et de Mazalot et de signes astrologiques. On parle d'idolâtre. Mais, aujourd'hui, c'est en Israël, il n'y a pas beaucoup d'idolâtres. On est entouré principalement d'Arabes, de l'extérieur et de l'intérieur. Les Arabes sont en majorité musulmans. Or, les musulmans ne sont pas idolâtres, ils servent le même Dieu que nous, le Dieu d'Abraham, Ibrahim, un peu différent, mais c'est la même entité, d'accord? Elle, Allah, c'est le même. Donc, là, la vente, elle est oui valable, et il n'y a pas d'interdit, Parce que tout ce qui est interdit, c'est vendre à Oved Avodazara, un idolâtre. Réponse, c'est faux. Dans la super grosse majorité des décisionnaires, anciens du Moyen-Âge et nouveaux, il n'y a aucune différence entre un idolâtre non-juif et un non-idolâtre non-juif. Preuve en est. Shulchan Aruch autorisant les lois de Shabbat. Vous savez qu'Amiral et Goy, dire à un Goy de faire une Melacha Shabbat, c'est interdit des Rabbanan. C'est interdit. Il y a un seul cas où c'est permis. Si on veut acheter une terre d'Israël à un non-juif, vu qu'il y a une grande mitzvah de Yishuv vers Israël, d'habiter la terre d'Israël, maintenant j'ai un voisin, Ahmed est prêt maintenant à me vendre son terrain. Il vient me voir Shabbat, il sait que Shabbat, je suis peinard comme ça, je vais manger la daf, viens Ahmed, c'est toi, manishma, kifhallak, mamsout, hamdallah, tout va bien, on est heureux. Il me dit, il y a Aaron, moi je n'ai pas d'argent, je ne veux pas, là, je te vends ma vigne. Tu me vends ta vigne et je ne peux pas moi acheter Shabbat, je ne peux pas. Tu sais quoi, Amène Mahmoud, viens, on fait un contrat, signe pour moi. Et toi, tu signes, et Mahmoud, il signe pour moi. Est-ce que je dois de dire à quelqu'un signer?
Pour ça, oui.
J'ai pas le droit, normalement. Amiral et Goy, c'est interdit. Dire à un Goy, Shabbat, c'est interdit. Pour ça, c'est permis. Pourquoi? Parce qu'il y a une mitzvah de
conquérir la terre.
Les Yachev, comme on dit, de s'établir en terre d'Israël. Un point tel que Chazal ont autorisé même cet interdit des Rabbanan. Rien que pour ça. Même si on a déjà des terrains. D'accord? Maintenant, on n'a jamais vu, dans cette halakha, aucun possèque de aucun temps a dit « C'est valable seulement si c'est pour retirer la terre à un idolâtre. Mais si Ahmed, il est musulman et il n'est pas idolâtre, alors non, on ne peut pas maintenant. » On voit qu'il y a une mitzvah d'acheter cette terre d'un non-juif, qu'il soit idolâtre ou non idolâtre. Donc il y a une mitzvah. Comment tu veux me dire maintenant que on peut vendre la terre à un non-juif, même s'il n'est pas idolâtre? Tu me dis, je veux dire que la Avera est seulement avec un idolâtre, et tu me dis qu'on peut, donc il est permis de vendre d'après toi, je peux vendre à un arabe musulman, je peux vendre ma terre d'Israël. On voit qu'on me permet de faire un interdit des rabbanan de Chilul Shabbat, Amira le Goy, dire à un Goy, pour lui retirer sa terre à l'arabe. Donc tu vois qu'il y a une mitzvah de retirer la terre à un arabe pour faire passer dans le domaine du juif. Tu veux me dire maintenant donc qu'il est permis de faire passer du juif chez l'arabe? C'est impossible. Vu qu'on a vu qu'il n'y a pas de nuance au niveau des lois de Shabbat entre un idolâtre et un non-idolâtre, ça va dans les deux sens. On voit donc que ce heter, cette autorisation de vendre, elle est très très branlante. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Admettons qu'elle est valable. Est-ce que ça nous sort du problème, oui ou non? Non. Pourquoi? Une question se pose. Il y a une terre maintenant qui appartient à un arabe, vraiment. Est-ce qu'un juif a le droit de travailler la terre d'un propriétaire arabe? Réponse, non.
En dehors d'Israël?
Non, on parle que qu'en terre d'Israël. La terre d'Israël, elle est sainte. L'arabe, je ne vais pas lui dire, tu n'as pas le droit de travailler la terre, il fait ce qu'il veut. Un juif n'a pas le droit de travailler la terre. Qu'elle soit de propriété juive, ou de propriété arabe. Un arabe ne pourra pas travailler employé chez un propriétaire juif, parce qu'il est la main longue, il est le délégué du juif. Le juif n'a pas le droit de travailler, donc son employé arabe non plus. Mais est-ce qu'on va dire le contraire? Est-ce que moi, en tant que juif employé chez un arabe, est-ce que je peux maintenant travailler la terre de l'arabe? Non. Parce que moi, j'ai l'ordonnance de ne pas travailler la terre d'Israël. Or, c'est la terre d'Israël, bien qu'elle appartient à un arabe, mais c'est la terre d'Israël. Elle est sainte. Je n'ai pas le droit de travailler la terre. Donc, même si on admet que la vente, elle est oui valable, admettons. Donc, tous les kibboutzines, tous les agriculteurs, ils ont vendu leur terre à Ahmed. Est-ce qu'ils ont le droit de travailler la terre? Pas du tout. La terre d'Israël, qu'elle soit vendue à qui que ce soit, elle reste la terre d'Israël. Et l'interdiction de travailler la terre, elle reste. Pardon? Même sans profit, le fait de labourer, le fait de planter, de récolter, tout ça c'est interdit de la Torah. De la Torah. Aujourd'hui c'est Rabbanan, d'accord, mais théoriquement, authentiquement, c'était de Horaïta. Vous me direz.
Il ne peut pas faire travailler un arabe maintenant? C'est-à-dire que le juif, il prend un kablan arabe, un employeur arabe, et il travaille la terre, il prend un bénéfice dessus.
Ça, mais une fois, lorsque moi j'ai un employeur arabe, c'est comme si c'est moi. C'est un envoyé de moi. L'argument, il y a un argument béton, soi-disant béton, à mon avis, c'est un argument coton, des rabbanim qui disent, à propos sur le terme Mechira, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent comme ça. Ils disent, alors quoi? Vu que maintenant, tous les kibbutz qui comptent sur le terme Mechira, c'est pas valable, alors vous allez manger quoi? Vous allez manger une production qui vient de l'étranger. Et c'est pas l'étranger, production des Arabes. On a dit Minag Yerushalayim, on considère que la production du propriétaire non juif, et il n'y a pas de sainteté. Effectivement. Et c'est comme ça qu'en tout cas, Minag Yerushalayim, nous, Minag Yerushalayim, on compte là-dessus. Tout la majorité des magasins avec les bons herchers émissaires à Jérusalem, Yevoul, Nochrim, récolte de non juifs. Alors c'est quoi? Ah, il y a une partie qu'on va apporter de la Corée du Sud, l'autre partie d'Espagne, mais une grande partie de Gaza, une grande partie de Shtahim. Disent les rabbins, mais vous vous rendez compte ce que vous êtes en train de faire maintenant? Vous, maintenant, vous donnez de l'argent aux Arabes, ils vous vendent leurs concombres, leurs malheureux concombres, leurs malheureuses tomates, vous donnez de l'argent, et ils font quoi les Arabes à Gaza, à Hamas? Ils achètent des armes. Après, ils vont tuer les Juifs. Donc vous êtes, avant de votre histoire de Shoah, vous êtes maintenant, on dit, complice du Hamas. Ah là 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 là, c'est... Argument coton ou béton? Ça a l'air béton. Argument coton. D'abord, c'est pas un argument de Torah. Torah, parle-moi à l'Acha. Nous, on sait que c'est à cause que le peuple juif n'a pas fait la Shevite, qu'on est parti en exil. Et quand on fait au contraire la mission de Shevite, on conserve la sainteté de la terre comme il le faut, comme Dieu veut, c'est ça qui nous protège les Arabes. Ça, c'est un argument juif. Deuxièmement, si tu veux parler vraiment maintenant sur le terrain, l'année passée, les concombres et les tomates, elles venaient d'où? De Gaza. C'est des hyper-sionistes. Ils sont pour la terre d'Israël. Ok, tu vends la terre d'Israël. Lave de Roïta. Ok, tu vends ta terre d'Israël à Ahmed. Et l'année passée, quand ça ne te dérangeait pas, d'où tu crois que tu avais tes concombres dans ton assiette que tu mangeais là, ces tomates et ces concombres, d'où ils venaient? De Gaza. Les mêmes. L'argent n'a pas d'odeur, messieurs. Il n'y a aucune différence entre la production de cette année et l'année passée. L'année passée, ils ont pris des Arabes. Cette année, ils prennent aussi des Arabes. Alors nous, tant qu'à faire de prendre du juif qui fait un interdit, en comptant sur l'interdit, Mechira, pour nous en tout cas, on va prendre de l'arabe. Et ça ne change rien du tout au niveau du business de Gaza. Troisièmement, comme j'ai dit rapidement, si on se considère comme sioniste, alors comment est-ce qu'on fait maintenant pour vendre, pour entériner au niveau de notre conception qu'on vende la terre d'Israël? Ça ne tient pas la route. Donc, si quelqu'un se trouve dans une situation où il n'est pas à Bnei Brak, il n'est pas à Jérusalem, il est dans un bled en Israël, et il veut manger un concombre, pas un concombre, c'est un problème, un concombre, il veut acheter maintenant une pomme, un fruit de l'arbre, et il cherche maintenant une épicerie, il en trouve, il y en a deux, un c'est Ahmed lui-même qui vend, le deux, bon, c'est la meilleure solution, attention, c'est pas toujours quand un arabe vend qu'on peut acheter, parce que très souvent les arabes ont de la production de tnouva, juive, et c'est interdit. Ça revient au même. Maintenant il a découvert, enfin un épicier, il lui dit, vous êtes Otsar Bedin, ou c'est Yevoul Nochrim, de quoi tu parles? Je te parle maintenant de Shemitah, c'est quoi Shemitah? La septième année, ça fait 28 ans que j'ai mon épicerie, que tu me dis, septième année. Il comprend, il sait même pas de quoi je parle. Alors je sais qu'il y a quand même une rabbanoute, il y a un rabbinat, un consistoire israélien, que certainement tous les agriculteurs de la région, on leur a fait signer ce petit papier. Donc la pomme maintenant que me propose cet épicier, elle provient d'un champ agricole par Eter Mechira, que nous considérons comme non valable. Y a-t-il une solution, oui ou non? Alors on va énumérer les problèmes qu'il y a avec cette pomme-là dans l'Eter Mechira. Le premier problème... Ça s'appelle chamour. Il y a une obligation pour l'agriculteur ou pour n'importe quel propriétaire foncier, le type qui a sa villa avec son petit jardin, de faire hefker, se désapproprier de toute la production agricole de la Shemitah. Si maintenant quelqu'un n'a pas fait hefker, il dit moi je ferme, c'est interdit, j'ai interdit aux gens de venir prendre maintenant les fruits de mon jardin ou de mon verger, alors l'agriculteur transgresse un interdit de la Torah. Aujourd'hui c'était la banane, mais authentiquement c'était de la Torah, de ne pas faire le hefker. Donc le fruit, il y a un problème. On n'a pas fait hefker. Deuxième problème, on appelle ça ne'evad. On n'a pas le droit de cultiver la terre, je n'ai pas le droit de planter. j'ai pas le droit de mettre des engrais, j'ai pas le droit. Et cette pomme-là, on a travaillé la terre pour l'obtenir. Donc c'est le résultat d'une action qui est interdite. Ensuite, il y a un troisième interdit. Je peux dire, ok, ça c'est pas moi. Là, c'est l'agriculteur qui n'a pas fait hefker, qui ne s'est pas approprié. C'est lui qui a travaillé la terre, c'est pas mon affaire. Moi, je vais cacher la pomme. Il dit, non, quand tu achètes la pomme, qu'est-ce que tu fais? Quelque part, tu es messaïa, tu l'aides à faire une avera. Lui compte sur toi qui va vendre sa production. Quand tu achètes la pomme, l'argent, en fin de compte, revient à l'épicier, et l'épicier a payé l'agriculteur. Donc, quand nous achetons des fruits qui sont de terrains qui sont vendus par la terre Mechira, on aide des gens à faire une avera. Or, c'est interdit de faire cela. Non, mais ça, c'est abdibar avera. Tu aides quelqu'un à faire une avera, c'est complètement interdit. Quatrième problème, il y a un problème de business. Il te vend, tu achètes, il y a du business. L'épicier, il fait maintenant un bénéfice sur le fruit lui-même. Problème de... On n'a pas le droit de faire du business avec les fruits de Shvit. Cinquième problème, quand on achète, on n'a pas le droit d'acheter de façon normale. Ça veut dire, on n'a pas le droit de peser, on n'a pas le droit de compter. Or, quand tu es dans ton bled maintenant, tu vas acheter, on va dire, je ne sais pas moi, on va dire, Zadiel, d'accord? C'est un petit bled de rien du tout. Tu as Zadiel maintenant, tu arrives à l'épicerie de Zadiel, maintenant tu veux acheter trois pommes. Le type, il te la met maintenant sur la balance, et hop, interdit de mettre sur une balance. Non, non, je veux sans la balance. Il me dit, quoi sans la balance? Comment que j'en ai des pommes sans? Alors vendez-moi, je te vends à l'unité. Non, pas non plus à l'unité, on ne peut pas acheter ni en comptant, ni en pesant. On doit acheter en estimation. Fais-moi une estimation. D'accord, il va te regarder comme un dingo. Cinquième problème. Sixième problème, c'est que lorsque j'achète la pomme, j'ai parlé de ça dans un cours précédent, mais on va en reparler un peu, quand j'achète une pomme, n'importe quel fruit de Shvi'it, l'argent que je lui donne devient sain comme la pomme elle-même. Et l'épicier a l'obligation d'acheter avec cet argent-là des aliments qu'il doit manger en sainteté de Shvi'it. Ça veut dire pas gâcher ces aliments. Hein? Non, non, on parle d'un juif. Alors il y a interdiction, Chazal on dit, interdiction de en mosrim dme Shvi'it le chashoud à la Shvi'it. On n'a pas le droit de donner de l'argent de Shvi'it à quelqu'un qui est chashoud, qui est suspect, qui ne fait pas les lois de Shvi'it. Or lui, il ne sait même pas de quoi je parle. Il me dit 28 ans que j'ai mon magasin, je ne sais pas de quoi je parle quand je dis 7. Donc c'est certain qu'avec cet argent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'acheter de l'essence pour sa voiture. Or l'essence, ça ne se mange pas, ça se brûle, c'est un problème. Il va acheter du canigou pour son chien. Très sympa, il est très sympathique son chien. Mais son chien, c'est quand même pas un sainteté de Shvi'it. D'accord? Il y a des problèmes. Il est obligé de manger. En sainteté de Shvi'it, ça veut dire avec toutes les lois qu'on a vues et qu'on verra ultérieurement de la sainteté des fruits. Or, il ne le fait pas. Quelle est la solution? Alors, on va maintenant, je vais reprendre tous ces problèmes que j'ai évoqués. Il y en a 6 et on va voir qu'en fait, il y a des solutions. Les deux premiers problèmes. Shamur v'Ne'evad, un fruit qui a été gardé. On ne l'a pas désapproprié. Et Ne'evad, un fruit qu'on a cultivé dans la terre de façon interdite. Il y a une discussion entre Maïmonide et son contemporain, le Ra'avad. Est-ce que ce fruit est permis, oui ou non? Maïmonide dit que oui, il est permis. L'agriculteur a fait un interdit. Mais le fruit, il est permis. Le Ra'avad dit non. Quand je dis Rambam et Ra'avad, il y a encore beaucoup de poskim avec le Rif, le Roche, etc. D'accord? Le Rabbeinu Tam avec le Ra'avad. Il y a beaucoup de poskim. Mais c'est les deux shitot. Rambam et Ra'avad, les deux façons de voir. Un dit le fruit est permis, l'autre est interdit. Vu qu'on dit aujourd'hui que la Shemitah elle est que des Rabbanan, on a une loi qui dit ça fait que des Rabbanan les Koula. Quand on a un doute à propos d'une loi des Rabbanan, on peut aller les Koula, prendre la vie qui est plus léger, plus facile. Donc là, l'Alakha aujourd'hui, à part les cas où on veut faire une mitzvah, un etrog, quand on fait la mitzvah maintenant de white à de etrog, c'est déconseillé. Mais quand il s'agit de la consommation maintenant alimentaire, on peut considérer que des fruits, même s'ils n'ont pas été désappropriés par leur propriétaire, même s'ils ont été cultivés par le propriétaire, donc ces fruits ont été poussés en avera, de façon interdite, le fruit lui-même est permis. Ensuite, on a vu que nous, on aidait l'agriculteur à cultiver la terre, ce qui est interdit. Alors là, il y a aussi une autre raison laquelle. Parce que l'agriculteur, en fin de compte, lui, il va d'après un avis de certains rabbins qui existent et qui ont existé il y a 500 ans, qui ont dit que c'est permis. Là, la fois on n'est pas d'accord avec le terme Mechira. Mais ça veut dire qu'il n'y a personne qui est d'accord. Il y a quelques-uns qui sont d'accord. Donc lui, maintenant, par rapport à moi, il est dans l'erreur. Mais par rapport à lui, il dit, écoutez, je sais pas, vous dites comme ça, mon rabbin, il m'a dit que ça allait. Donc lui, il est complètement nickel. Il n'y a aucun problème. Lui, par rapport à Dieu, il est nickel. Il cultive la terre, il dit, j'ai signé, le rabbin m'a dit que ça va, terminé. Je ne pose pas trop de questions. Donc on ne peut pas dire que maintenant, je l'aide à faire une avéra. Parce que pour eux, ce n'est pas une avéra. Donc on sort de ce problème. Quatrième, c'était Sroa. Business. Troisième, on a dit maintenant. Chamour, Nevad. Désapproprié, Nevad. C'était cultivé. Troisième, que je vais faire une avéra. Quatrième, business. Business, qui veut du business? Moi ou lui? Lui, pas moi. Moi, je l'achète. Lui, il fait un bénéfice. Et lui a le droit de faire le bénéfice. Parce que, de nouveau, il concède après le terme Echira que ces fruits-là sont des fruits de Goïm, qui n'ont pas de sainteté. Cinquième problème, Mishkal ou Mida, peser et compter. Alors là, évidemment, là, il n'y a déjà plus de solution. Parce que là, ça me concerne déjà moi-même. Là, c'est moi maintenant qui compte, c'est moi maintenant qui pèse. Donc, je suis obligé de lui dire, j'achète un carton. Fais-moi un prix pour le carton, à l'estimation. Ça, c'est, il n'y a pas de solution différente. Si quelqu'un se retrouve dans un endroit où il n'a que des fruits qui sont vendus par Eter, qui proviennent d'un Eter Mechira, il doit acheter ces fruits-là en estimation. Donne même plus, si tu veux.
Si c'est un pack de tomates.
Ça va, très bien. Un pack de tomates, ça va.
Si on peut mettre les pommes dans un sac, et ensuite, on va juste passer à la caisse.
Mais la caisse, comment lui... Il pèse. Non, ça va pas. Toi, ça va pas. C'est pour toi, ça va pas.
Il va le faire, c'est sûr.
Non, tu dis, écoute, moi, je suis un religieux, t'as vu. Je peux pas acheter. Je peux pas acheter. 7e année, 28e, tout ce que tu veux. Écoute, je suis un maboule. Moi, je peux acheter qu'en estimation. Fais-moi un prix. T'en fais pas, il faut un prix à son avantage. Sixième et dernier problème, qu'on ne donne pas de... l'argent à quelqu'un qui a rachoud à la cheville. Or, quand maintenant j'achète, on va dire, pour 10 shekels de pommes, ces 10 shekels que je lui donne, ils deviennent sains. Alors, il y a aussi des moyens de sortir de cela. Le seul cas où l'argent devient sain, c'est quand on fait une transaction directe. Il me donne les fruits, je lui donne l'argent. On peut faire un chèque. Tu fais un chèque. Et si possible, tu fais un chèque dont la date du chèque sera après que tu auras mangé les fruits. Tout ça pendant une semaine. Ou tu manges 3 pommes, c'est pour aujourd'hui. Même tu lui dis, écoute, tu n'encaisses pas avant ce soir. Tu lui donnes comme ça, d'après cela, l'argent que lui reçoit n'a aucune sainteté de cheville. S'il dit, je ne veux pas de chèque pour dans une semaine, je veux pour maintenant, tu peux lui faire un chèque pour maintenant. Le mieux de tout, c'est acheter Béavla. C'est quoi Béavla? Non, carte de crédit, c'est bon aussi, absolument. Non, le meilleur moyen s'appelle Bavla. Ça, c'est encore mieux que tout cela. Ça s'appelle Bavla. Bavla, c'est quoi? C'est que je recherche maintenant quelque chose d'autre qui. Il y a aussi des noix de coco qui viennent de Tanzanie. D'accord? Il n'y a pas de noix de coco en Israël. Dis, oh, la belle noix de coco. Écoute, tu me vends maintenant les pommes pour 10 shekels. Combien vaut la noix de coco? Il me dit 5 shekels. Ben, écoute, je t'achète la noix de coco pour 15 shekels. Mais tu me fais le paquet de pommes. Tu me fais le paquet de pommes gratuitement. C'est un truc qui est valable dans les poskim. D'ailleurs, l'année prochaine, quand on va acheter le hétrog, c'est le seul moyen de s'en sortir. Le hétrog, qu'on achète l'année prochaine, vu qu'il y a de la sainteté, on ne peut pas l'acheter. Alors, qu'est-ce qu'on achète? On achète le loulav pour un prix majoré. On reçoit l'hétrog gratuitement. C'est le seul moyen. Mais il faut que ça soit logique. Je ne peux pas maintenant acheter 10 cartons de pommes pour le prix d'une noix de coco. Ou payer à noix de coco le prix de 10 cartons de pommes. Il faut qu'il y ait une certaine logique des choses. D'accord? Maintenant, si tout ça ne marche pas, il veut de l'argent en liquide maintenant. On lui dit, sois gentil, fais-moi plaisir. Tu auras la bracha dans ta maison, je te fais une bracha. Je te prends les fruits, je reviens dans 5 minutes te payer. Tu prends les fruits, tu vas faire un tour et tu le payes. Vu que c'est déjà différé un temps soit peu, c'est pas dans le même moment, là aussi, dans tous ces cas-là, l'argent n'est pas attrapé.
Tu le payes tout de suite?
Non, si je le paye tout de suite, et mes fruits m'appartiennent déjà. Du moment que je donne l'argent, les fruits m'appartiennent. Non, non, alors, c'est certain que ça, c'est si on n'a pas d'autre solution. Tu vois que c'est extrêmement scabreux. Si on compte sur des tas de combines un peu compliquées, le plus simple, c'est, si vous savez quoi faire, la question que tout le monde pose, c'est très simple. Tu vas acheter dans un magasin. Ici, si tu prends Mina Yerushalayim, ce qui est le plus simple, qu'on considère que la récolte des non-juifs, elle n'est pas sainte, alors c'est ce qu'il y a dans les magasins ici. Tu vas dans un magasin qui a ou au marché, il y a un Hercher qui est bon, tu sais que tout ce que tu as les yeux fermés, il n'y a aucun problème. C'est tout, terminé. Maintenant, des bons hachérim, Badat, Bez, Raf Efrati, etc. Maintenant, il y a une autre solution, c'est si tu as des fruits qui ne sont pas de non-juifs, mais de juifs, c'est Otsar Beddin. On en parlera ultérieurement, comment Otsar Beddin, c'est en quelque sorte le Beddin qui te vend, qui distribue le produit de la récolte et te fait payer le coût de revient des fruits, pas le fruit en lui-même, le coût de revient du travail des fruits. Et là, il y a de la sainteté dans les fruits. C'est les deux solutions qui existent en gros. Maintenant, tout cela, tu avais une question ?
Il y a c'est les deux solutions préconisent. Il y a aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'en Israël ? Il y a aussi la troisième solution qui est quand l'agriculteur a signé un papier.
Voilà, alors ça, voilà.
Et comme c'est des rabbins, on
ça, c'est quand ils vont acheter, ça, le Minhag de Bnei Brak. Pour ceux qui ont le Minhag de Bnei Brak, qui considèrent que la récolte des goyim a de la sainteté, donc on ne peut pas faire du business avec ces fruits-là. Donc tous les clients vont faire un ktav shlichut, une procuration à l'épicier, au grossiste, qui lui est l'envoyé du public pour acheter du goy. Et il revend, il donne au public les fruits et leur fait payer le prix de revient du travail. Mais il n'y a pas de bénéfice sur le fruit lui-même. Donc, si on n'arrive pas à acheter des fruits dans les magasins avec un bon hercher, on va acheter des fruits dans un magasin qui ont un moins bon hercher, pas qu'il n'y a pas d'hercher du tout, on ne sait pas d'où ça vient. C'est au moins un kasher rabanout standard, que là c'est Ethermechira. Dans ce cas, il faut faire attention à deux choses au niveau de l'achat. Après, au niveau de la consommation, c'est encore différent, je vais expliquer. Au niveau de l'achat, il faut faire attention de ne pas acheter au poids ou à la mesure ou au nombre, mais en estimation, et payer en différé, ou, comme je l'ai dit, faire payer une autre chose, et on inclut... Maintenant, ça, c'est au niveau de l'achat. Au niveau de la consommation, il y a beaucoup de problèmes. D'abord, ces fruits-là, on considère que ce sont des fruits qui sont sains. Donc, toutes les lois de sainteté des fruits concernent ces fruits, et on n'a pas le droit, on verra ultérieurement toutes les lois, on a déjà vu antérieurement, mais ultérieurement, tu n'as pas le droit de donner à ton chien. Tu n'as pas le droit de cuire ce qui se mange cru, tu n'as pas le droit de manger cru ce qui se mange cuit, tu n'as pas le droit de jeter ça à la poubelle, les restes, il faut attendre que ça pourrisse, etc., avant que tu jettes à la poubelle. Tout un tas de lois qui concernent la sainteté des fruits. Deuxième chose, et les gens oublient cela très souvent, ceux qui sont un peu au courant des lois agricoles juives savent qu'il faut donner les prélèvements. Ici en Israël, quand tu achètes une pomme comme ça, en septième année, en année normale, il faut faire 5-6 prélèvements. Maintenant, on a Trouma Gdola. Après la Troumat Maaser, après le Maaser Rishon, après le Maaser Shani, après le Maaser Ani, et il faut faire attention à la Orla, il faut faire attention au Réveil, il faut faire attention à la Chevite, et voilà. Donc, les gens croient que toutes ces choses après le vent, ça concerne quoi ? Les six premières années, mais septième année, la terre, elle est désappropriée, et c'est vrai, c'est désapproprié, il n'y a pas Maaser, il n'y a rien, seulement une chose qui m'appartient, je dois donner ces prélèvements, une chose qui est désappropriée, je trouve maintenant un arbre sauvage comme ça, je peux prendre sans faire le Maaser, parce que ça appartient à personne. Et vu que la septième année, rien n'appartient à personne, donc, il n'y a pas de problème. Mais dans ce cas, c'est faux. Pourquoi ? Parce que nous, on considère que le Ethermechira, il ne vaut rien. Donc, l'agriculteur qui a vendu, il n'a rien vendu. Donc, il ne s'est pas désapproprié. Donc, ce fruit-là, il est sain. Et il faut faire le Maaser. Les gens disent, quoi, Maaser en Shvit ? Oui, monsieur, on doit faire le Maaser. Quel Maaser on fait ? On fait le Maaser Ani. Et vu que faire le Maaser, il y a un doute aussi, il y a Rabbanim qui dit qu'il faut faire aussi le Maaser Chéni, Maaser Chéni, c'est rien du tout à faire. Il faut dire deux phrases. Arrêt, Maaser Chéni, Inserk Maaser Chéni, Sifro Maaser Chéni, Maaser Chéni, Bédro Moïle au sud, et on fait passer la sainteté de Maaser Chéni sur une pièce. Il faut dire cette chose-là.
Comme ça,
pardon ? En hébreu, en français. D'accord. Ok ? Donc, il faut faire le Maaser. Maintenant, il y a une dernière chose aussi qui concerne les fruits de Shvi'it. On a vu aussi dans les cours précédents, il y a une obligation de la Torah, aujourd'hui c'est des rabbins, mais c'est quand même une obligation, de faire le bi'our. Lorsque les fruits disparaissent dans les champs, la saison est finie, ils doivent disparaître de chez moi à la maison. Comment on fait ? Maïmonide dit qu'il faut les faire disparaître vraiment, les brûler, les enterrer, les jeter. Le Ramban et d'autres, comme ça dit le Chazonish, il dit qu'il faut se désapproprier. Mais en aucun cas, on pourra avoir, après la date, par exemple, on sait que pour le vin de septième année, la date où il n'y a plus de raisins sur les vignes, c'est la veille de Pessah de la huitième année. Donc ça sera en 2009. D'accord ? La veille de Pessah 2009, tous ceux qui auront acheté du vin de Shvi'it, de 7e année, par Otsar Bedin ou par Etzer Mechira, par tous ces moyens que je vous donnais maintenant, par estimation et sans acheter directement, etc., acheter en différé, ils doivent impérativement faire le biour la veille de Pessah. Ou comme Maïmonide, comme ça, nous disons qu'il faut faire, c'est se débattre, tu verses le vin dans les toilettes, ou le désapproprié, tu sors les caisses de vin, tu dis prenez ceux qui veulent, quelques-uns prennent, après 3-4 heures tu attends, tu reprends, tu mets tout chez toi à la maison. Et cela est valable pour faire attention. Les boîtes de conserve, des fois tu as une boîte de conserve qui est de chute, 3-4 ans après, c'est interdit. Il faut vite aller ou s'en débarrasser ou désapproprier.
Donc, c'est un peu flippant, c'est un problème.
Non, il n'y a aucun problème. Ceux qui disent qu'en désappropriation, c'est un juif qui prend, ça va. D'autres, comme je vous dis, le Rambam, comme ça, le Rambam dit qu'il faut vraiment s'en débarrasser, c'est-à-dire que ça disparaisse du monde. Donc, ces fruits-là, maintenant, qu'on a achetés, qui proviennent de l'Eter Mechira, vu qu'ils ont une sainteté, on considère qu'ils n'ont pas été vendus à un goy, ils appartiennent aux juifs, donc ils ont une sainteté, et il ne faut pas oublier de faire le biur. Le problème, il est, à part ces trois choses-là, quand on est invité chez quelqu'un. Alors lui, il a cuisiné en sainteté, ça va, t'es pas un chien, c'est toi qui manges. Le maaser, il faut le faire. La date du biour, si elle n'est pas encore passée, tu peux manger. Si elle est déjà passée, tu fais vite une désappropriation. Tu vas dans la rue, tu dis, qui veut maintenant manger la purée que ma tante a donnée, personne ne veut, tu la reprends. D'accord? Mais il y a un problème. Dans tout ce que j'ai dit maintenant, est valable que pour les fruits des arbres. Mais les légumes, les céréales et féculents, il y a un issour de sphérine, pour ceux qui n'étaient pas là, hier, ce qui pousse tout seul de la terre, quelqu'un a moissonné son champ. Il y avait quelques graines qui sont restées par terre. Et en 7e année, ça a repoussé. Les restes, sauvagement, c'est permis à la consommation, ça poussait tout seul. Il y a 2-3 000 ans, que faisaient les juifs? Ils avaient faim. Ils prenaient une poignée comme ça de graines dans la main, comme ça, la nuit, allaient souffler. Je vais faire un tour, chérie, je reviens bientôt. Il allait dans son champ et comme ça. Quelques graines, prenez quelques radis, comme ça, quelques haricots. Et quelques semaines passées, quelques semaines plus tard, tout à coup on voit, oh, du blé qui a poussé, tiens, des radis. Puis t'as vu chérie, comme on a mal fait la moisson l'année passée, il y a vraiment la moitié des choses sont restées. C'est permis. Eux, aller en douce, c'est interdit. Mais d'après la loi, c'est permis, ça poussait tout seul, soi-disant. Le problème, c'est que tout le village, qui sont pas trop religieux, tout le monde, la même année, dans leur champ, tout à coup, ça commence à pousser tout seul. Parce qu'un a pris du voisin, il s'est en douce comme ça. Les rabbins ne sont pas dupes, alors ils ont interdit, c'est un xéra des rabbanats datant d'il y a 2000 ans, que tout ce qui pousse de la terre, qui peut pousser la même année où tu l'as planté, donc ce sont les légumes, les céréales et les féculents, sont interdits à la consommation. Interdits. Un goy, lui, n'a pas d'interdiction de cultiver la terre l'année de Shemitah. Donc ce issour de Sfirin, c'est que ce décret des rabbins ne concerne pas les goyim. Parce que je n'ai pas peur qu'il aille la nuit en douce. Lui, il peut même aller en plein jour, c'est permis. Mais les fruits, les légumes des juifs sont interdits à la consommation. Or maintenant, si l'agriculteur qui travaille son champ avec soi-disant autorisation de Termechira, il cultive des avocats, il cultive des oranges ou des pommes, c'est pas de problème, parce qu'il n'y a pas d'issue sur Sérine. Mais s'il cultive des tomates, du blé, des radis, des haricots, là, il n'y a plus rien à faire. Interdit à la consommation. Toutes ces choses-là, si elles ont été cultivées avec le Heter Mechira, n'ont aucune autorisation, quelle qu'elle soit. Et là, il faut dire à Tata, désolé, la purée de pommes de terre, si elle vient d'Israël, je ne peux pas la manger. Elle vient de Syrie ou d'Amérique, je peux la manger. Tout ce qui vient de la terre directement, qui pousse la même année où c'était planté. Le problème est quoi? Ce n'est pas dans la purée qu'elle me donne, la casserole dans laquelle elle a cuit. La purée, vu que la purée est interdite, donc la casserole aussi est interdite. Alors là, déjà, les rabbins m'ont autorisé. Pourquoi ils ont dit comme ça? Ils ont dit que, vu que, d'après, pour Tata, qui consomme Termechira, c'est pas interdit ces fruits-là, on a vu dans la halakha, bien que pour moi l'élément n'est pas cachère, le goût qui est imbibé dans la casserole, la halakha, on peut considérer que c'est, oui, quelque chose n'est pas obligé la Tata à faire une agala, à tremper ses casseroles dans l'eau bouillante. Donc, je récapitule rapidement. Le Termechira, on ne compte pas dessus. Si on n'a pas le choix, alors on peut acheter des fruits, mais des fruits provenant de l'arbre uniquement, dans aucun cas légumes, céréales et féculents. On devra acheter les fruits en différé ou en avla, ça veut dire en incluant dans le prix de quelque chose d'autre, et on pourra acheter qu'en estimation. Il faudra consommer cela avant le biour ou faire le biyour si on n'a toujours pas consommé au moment du biyour. Biyour, c'est deux choses. Ou bien s'en débarrasser complètement ou des appropriations. Il faudra faire le maaser ani et maaser sheni et faire attention à la sainteté des fruits. Baruch Adonai, l'homme.